Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui ce soir reçoit Adeline Hazan, qui vient de quitter ses fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Une loi de 2007 a créé une institution originale dans notre pays, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Originale parce qu'il est confié à une personne, comme le défenseur des droits, et non pas à un organe ou à une institution. Originale aussi parce que sa matière est l'enfermement. Toutes les formes d'enfermement, qu'ils soient psychiatriques, pénales, administratifs ou policiers. Originale aussi parce que ce contrôle est analytique et qu'il assortit toutes ces rapports de recommandations. On pourrait dire que le contrôleur ou la contrôleur général des lieux de privation de liberté porte le regard de la société sur des lieux fermés et du même coup, il rend visible ce qui est soustrait au regard des citoyens. Et j'ai donc le plaisir de recevoir ce soir Adeline Hazan. Adeline Hazan qui vient de terminer son mandat de 6 années de contrôleur des générales des lieux de privation de liberté. Bonsoir Adeline Hazan.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez une vie professionnelle très diversifiée avant d'être nommé à ce poste de contrôleur général. Vous êtes magistrat de formation, vous avez été juge d'application des peines, donc là c'était aussi une forme de contrôle de la prison. Vous avez été juge des enfants, vous avez travaillé à la politique de la ville, vous avez été au cabinet de Martine Aubry, vous avez été également présidente du syndicat de la magistrature. Avant de vous lancer en politique, parce que vous avez été secrétaire national du PS, et puis ensuite députée européenne, maire de Reims, d'une grande ville, et finalement, vous avez été nommée à ce poste de contrôleur général qui, Adeline Hazan, est un peu une synthèse de tout ce que vous avez fait. Vous avez exercé tous les pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs, là c'était la synthèse de tout ça.
J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses et d'avoir beaucoup d'expériences professionnelles différentes tout en étant magistrat. Et c'est vrai que c'est ce mandat de 6 ans comme contrôleur général des lieux de privation de liberté qui s'est achevé il y a un peu plus d'un mois. Pour moi, ça a été une forme, non pas de synthèse, parce que les choses sont toujours différentes les unes des autres, mais en tout cas, ça a été une façon, en ce qui concerne la prison en tout cas, de retrouver ce que j'avais connu au tout début de ma carrière en étant, vous l'avez rappelé, juge d'application des peines à Chalon-sur-Marne, mais aussi de retrouver ce qui a quand même toujours guidé l'ensemble de mes engagements, qu'ils soient d'ailleurs professionnels, syndicaux ou politiques. C'est un engagement pour les droits. Un engagement pour les droits et les libertés individuelles et un combat permanent, je pense, contre les inégalités. Et toutes ces formes d'inégalités, je dois dire que, pour des raisons qui me sont d'ailleurs relativement étrangères, elles m'ont toujours, dès mon plus jeune âge, elles m'ont paru extrêmement importantes. Et finalement, je crois que mon désir d'être magistrat, juge d'application des peines et juge des enfants, c'était d'abord, je pense, une façon de considérer, peut-être avec un peu de naïveté à l'époque, que la justice allait être régulateur de toutes ces injustices.
Alors, un peu de naïveté, un peu d'inexpérience, mais quand on est juge d'application des peines, qu'on sort de l'école de la magistrature, qu'on connaît peut-être pas grand-chose de la vie, ou du moins de ce monde carcéral qui est assez dur, c'est pas la même prison. Plus exactement, on ne voit pas la même prison de la même manière que quand on débarque avec son équipe dans un établissement pénitentiaire, où là, on part, parce que c'est les détenus qui vous saisissent, c'est les détenus qui vous écrivent. Et donc là, l'approche est complètement différente, Adeline Hazan.
C'est complètement différent. Quand on est juge d'application des peines et qu'on rentre dans une prison, au fond, on ne voit pas vraiment la prison. On voit les détenus, mais on ne voit pas vraiment la prison. Alors que quand on est contrôleur général ou même contrôleur d'ailleurs, dans une équipe du contrôle général et qu'on visite une prison, je précise que ça n'est pas forcément parce qu'on a été saisi par un détenu, nous visitons toutes les prisons, comme les autres lieux de privation de liberté, on y reviendra. Mais donc, Il s'agit même là de deuxième ou de troisième visite qui ont été effectuées sous mon mandat. Et là, on y passe concrètement 8 jours, c'est-à-dire par exemple à la maison d'arrêt de Douai. On est resté, je prends volontairement une petite, un établissement disons de taille moyenne, on est resté quand même à 6 ou 7 contrôleurs pendant une semaine, du lundi matin au vendredi soir. Et là, donc, on peut tout voir. On voit les détenus, on voit le personnel, on voit les dossiers. Il est même possible, depuis une réforme de 2014, que le contrôle puisse examiner le dossier médical d'un détenu, du moment que le détenu est d'accord, et surtout du moment que le contrôleur est médecin. Donc on voit vraiment la prison comme aucun magistrat ne la voit, et je dirais même qu'on la voit comme l'administration pénitentiaire ne la connaît pas.
Bah oui, elle est en responsabilité. Et vous la voyez. Qu'est-ce que vous faites pendant 8 jours avec tous vos enquêteurs, concrètement?
Concrètement, eh bien, nous avons chaque contrôleur a un secteur de la prison, à un secteur thématique de la prison à regarder, à inspecter. Ça peut être la santé, ça peut être les cours de promenade, ça peut être le quartier disciplinaire ou le quartier d'isolement, ça peut être la façon dont sont tracées justement les décisions, ça peut être la commission disciplinaire. Donc tout ce qui se passe dans une prison, en fait, est réparti au travers de ces quelques thèmes que je viens de citer entre les différents contrôleurs, qui sont, je vous dis, une moyenne de 6. Par exemple, nous sommes allés au Beaumet ou deux ans avant à Fleury. À Fleury, par exemple, un établissement extrêmement important comme ça,
et
la plus grande prison d'Europe.
Oui.
Eh bien, nous sommes restés 2 semaines et nous étions une équipe de 20 personnes. Donc là, ça veut dire que tous les jours, chaque contrôleur va voir dans chaque quartier dont il a la charge et chaque thème dont il a la charge, va examiner, voir les dossiers, voir les personnes, voir le personnel.
Ils entendent les personnes.
Absolument, toutes les personnes. Et le soir, il y a ce qu'on appelle entre nous une réunion de synthèse. Et à la fin de cette semaine ou de cette quinzaine de contrôle, eh bien, nous faisons ce que nous appelons une réunion de restitution à l'établissement, c'est-à-dire que nous expliquons à la direction de l'établissement les dysfonctionnements que nous avons pu trouver les uns et les autres au travers d'un chef de mission qui coordonne l'équipe au contrôle. Et ensuite, un rapport sera établi, d'abord envoyé à la direction de l'établissement, qui répondra, et ensuite envoyé au ministre de tutelle, en l'occurrence, si c'est une prison, le garde des Sceaux, bien sûr, avec donc toute une liste de constats, d'observations de ce qui dysfonctionne en termes de droits fondamentaux, et de propositions, c'est et ça. De recommandations. Mais c'est ça la richesse de notre institution.
Vous êtes bien reçu, Adeline Azan, quand vous débarquez dans une prison. Alors, Fleury-Mérogis, c'est vraiment une très grande prison, mais une prison de Douai, vous débarquez, c'est quand même un contrôle, donc les gens se sentent contrôlés. Vous êtes reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
Je ne dirais pas ça. D'ailleurs, tout dépend du type, la catégorie d'établissement. On reparlera tout à l'heure de la psychiatrie. Nous sommes très très bien reçus dans les établissements de santé mentale, ce qu'on appelle les hôpitaux psychiatriques. Dans les prisons, je ne pourrais pas dire que nous sommes mal reçus. Il est vrai que nous sommes quand même davantage considérés comme un peu des aiguillons, un peu les empêcheurs de gérer en rond ou d'enfermer et que donc c'est un petit peu plus difficile, mais il n'y a jamais d'hostilité déclarée, ça, non. Et depuis une réforme de 2014 qui a élargi les pouvoirs du contrôle général, eh bien, ce serait un délit de la part des autorités, que ce soit d'ailleurs les ministères ou les établissements, que de faire une entrave à notre action.
Mais c'est jamais arrivé, ça.
Ça n'est jamais arrivé, mais tout le monde sait que ça peut arriver.
Parce que dans une prison, il y a quoi, c'est ça, comme dans tous les milieux humains, il y a des gens formidables en prison qui font des activités. On reviendra sur l'activité parce que c'est une source de souffrance principale, majeure à vous lire. Hein, c'est les détenus se plaignent beaucoup du manque d'activité lorsqu'ils sont en prison. Donc il y a des gens, et pour eux, ça leur apporte un peu à soutien extérieur, j'imagine.
Ah, bien sûr, bien sûr. Pour tout ce qui est les personnes elles-mêmes privées de liberté, les détenus, tous ceux qui s'occupent d'elles, les visiteurs de prison, même le secteur médical, les enseignants, ceux qui organisent pour eux des activités qui peuvent être très très variables, hein, des activités un peu occupationnelles ou des activités artistiques. Il y a des établissements où il se passe un certain nombre de choses, malheureusement pas assez et pas surtout pas assez dans les maisons d'arrêt.
Et puis pas systématiquement, c'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie. C'est intéressant de voir les lettres des détenus qui vous écrivent. Beaucoup disent, mais j'ai besoin, je pense à une lettre en particulier, j'ai absolument besoin de travailler parce que je nourris ma famille.
Bien sûr,
je voudrais donner même ma ration à mon fils si je le pouvais, parce que c'est absolument crucial pour moi.
C'est évident, et on sait qu'actuellement, entre 20 et 25% seulement des détenus ont un travail en prison, peuvent travailler, ce qui est très insuffisant parce que beaucoup plus que 25% évidemment veulent travailler, et par ailleurs ils sont payés, on ne va pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais ils sont payés de façon scandaleuse.
Oui.
Scandaleuse, ça doit être à peu près, ça devrait être 60% du SMIC horaire, et en réalité ça n'est même pas ça.
Mais on a l'impression, est-ce qu'ils se plaignent du salaire? Est-ce qu'en fait, ils ne se plaignent pas surtout du manque d'activité?
Ils se plaignent d'abord du manque d'activité et du manque de travail. Après, quand même, on a reçu pas mal de lettres aussi sur le fait que alors que c'est interdit, ils continuent à faire un travail à la pièce,
qu'ils sont très répétitifs,
dans des conditions parfois qui ne sont pas satisfaisantes. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ce mandat, j'ai beaucoup milité pour qu'il y ait ce qu'on appelle un droit social pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on reconnaisse un contrat entre le détenu et l'administration pénitentiaire, alors qu'à l'heure actuelle, c'est simplement un engagement unilatéral.
Il n'y a pas de contrat de travail.
Et ce que nous demandions, ce que j'ai beaucoup demandé pendant ces 6 années, c'est que justement, il y ait un certain nombre de garanties du code du travail qui s'appliquent, c'est-à-dire, par exemple, l'inspection du travail, des visites médicales.
Elle vient à l'inspection du travail en détention, non?
Non, elle ne vient pas, justement. Et c'est ce que, avec un certain nombre d'autres, bien sûr, nous avons demandé. Il y a eu d'ailleurs une décision du Conseil constitutionnel il y a quelques années dont nous espérions beaucoup, mais qui malheureusement a considéré que ces textes n'étaient pas inconstitutionnels, qui ne reconnaissaient pas un contrat de travail et qu'il appartenait au législateur, s'il le souhaitait, de construire justement ce droit social du travail, et donc de dire que la relation qui existe entre l'employeur, qui est l'administration pénitentiaire, et le détenu, c'est un véritable contrat de travail.
C'est le paradoxe. C'est un grand paradoxe de la prison, c'est qu'on a l'impression que c'est un lieu qui devrait incarner le cœur de l'institution légale, de l'état de droit, et il y a beaucoup de lois qui ne sont pas observées en prison, à commencer par une loi, alors je parle sous votre contrôle, la de Linazan, une loi de 1875, donc c'est quand même la vieille qui exige l'encellulement individuel, qui exige que chaque détenu soit dans une cellule à part, seul.
On en est absolument très 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 loin, bien sûr, puisque, comme vous le savez, avant la crise sanitaire, les prisons étaient remplies à 71 000 détenus, c'est-à-dire que il y avait un taux de surpopulation moyen d'environ 140%, mais avec des seuils dans les maisons d'arrêt de 180 à 200%, donc un taux de surpopulation absolument énorme.
Alors, est-ce que vous pouvez décrire pour nos auditeurs ce que c'est que la surpopulation concrètement pour les détenus?
La surpopulation pour les détenus, c'est 3 personnes ou 4 même dans une cellule de 9 mètres carrés, avec parfois, parce qu'il y en a quand même 1500 en France, un matelas par terre. Ça veut dire que au moment, par exemple, je cite souvent cet exemple, que au moment où quelqu'un veut se lever, il faut que celui qui déjà a dormi par terre sur un matelas, eh bien, roule son matelas pour que celui qui était sur la couchette du dessus puisse descendre. Donc, j'ai visité beaucoup de cellules, mais évidemment, mais les contrôleurs qui m'entouraient également, où on se retrouvait nous-mêmes à deux plus le détenu pour voir la cellule. On pouvait à peine bouger et il nous sortait justement le matelas sur lequel un des trois dormait. Donc là, il y a une question de dignité qui n'est pas respectée. Et quand on parle de droits fondamentaux, précisément le ce qui doit chapeauter l'ensemble des droits fondamentaux, c'est évidemment la dignité. Là, elle n'existe plus.
Elle n'existe plus, surtout que c'est très naïf ce que je vais dire, mais il faut quand même s'en souvenir. Ces personnes ne se sont pas choisies. On débarque dans une cellule, on ne sait pas avec qui on est, et on ne sait pas ce qu'il a fait. Et donc, il y a une sorte de promiscuité, d'intimité imposée
qui est insupportable. Et je rappelle également que 60% de l'ensemble des détenus en France sont des détenus provisoires qui n'ont pas encore été jugés, donc qui sont présumés innocents. Oui. Et que c'est à ces présumés innocents qu'on fait subir finalement les conditions les pires
que ceux qui sont condamnés.
Tout à fait. Mais vous savez, Antoine Garapon, je voulais revenir sur ce que vous disiez, c'est le droit, c'est la loi, mais précisément, il y a un domaine où l'écart, le fossé, je dirais, entre la loi et la réalité, est le plus important pour moi, c'est bien la prison. Parce que si on lit des textes maintenant, d'abord ça a été, il faut revenir un tout petit peu en arrière, et il a été très très tardif cet arsenal législatif concernant la prison, puisque je me souviens que dans les années 2000, Canivet, qui était premier président de la Cour de cassation, demandait d'ailleurs un contrôle extérieur, mais demandait aussi qu'il y ait un droit pénitentiaire, pas seulement des circulaires, pas seulement...
Bon. Ce qui est arrivé sous l'impulsion de Robert Badinter par la grande loi de 2009.
Absolument.
Et de Jean-René Le Cerf, faut le dire, parce que tous
les
deux
étaient... Alors c'était plus Badinter, mais c'est arrivé en 2009. Ça remontait évidemment à très loin. Jean-René Le Cerf a joué un rôle extrêmement, extrêmement important. Catherine Tasca aussi. Et donc cette loi, quand on regarde cette loi dont on a, avec plein de guillemets, fêté les 10 ans justement il y a quelques mois, il y a tout dans cette loi. Il y a tout.
Et sauf le respect.
Sauf le respect de cette loi. C'est-à-dire qu'en fait, on lit dans cette loi que finalement, le premier objectif de la prison, c'est la réinsertion. C'était la première fois que dans une loi...
Ça passait avant la sécurité.
Voilà, ça passait avant la sécurité. Même si... En 1945, au moment de la fameuse loi Amor, qui était le premier directeur de l'administration pénitentiaire, on parlait de reclassement du détenu. C'était la première fois qu'on parlait pas seulement de punition. Mais la loi de 2009, elle a vraiment affirmé que c'était le premier rôle de la prison.
Il s'est passé quelque chose ces derniers mois, et on n'en est pas complètement sorti d'ailleurs, ça a été le confinement. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Tlinazan, parce qu'on a l'impression que ce que vous réclamiez, ce que beaucoup de gens réclamaient, y compris au sein de la pénitentiaire d'ailleurs, où des directeurs d'établissements disent « mais on peut rien faire avec une prison surpeuplée, on peut pas faire de réinsertion, on peut pas s'intéresser aux gens, on peut pas faire d'activité parce que c'est ingérable ». Eh bien, le miracle s'est produit.
Alors, c'est très difficile de parler de miracle.
Oui, non, mais
quand
miracle,
on voit
ça a été possible.
Oui, bien sûr. Mais je comprends
et
tout
pas
à
partout,
fait.
Oui,
mais quand on voit ce qui s'est passé, mais il est vrai que ce qu'on réclamait à peu près depuis 30 ans, les uns, les autres, chacun dans nos fonctions respectives, c'est-à-dire un des engorgements des prisons, c'est-à-dire que on ne se serve de la réponse prison que en tout à fait dernier recours quand rien d'autre n'est possible, et ben subitement ça a été possible, c'est-à-dire que d'abord, les juges d'application des peines ont fait un boulot remarquable avant même que la chancellerie donne des instructions, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à libérer des personnes qui étaient plutôt en fin de peine. Et puis, au bout de quelques jours, la chancellerie a donné comme instruction que puissent être libérés les détenus qui sont à moins de 2 mois de leur fin de peine, sous réserve, bien sûr, qu'ils aient un domicile, ce qui a malheureusement exclu un certain nombre de détenus. Mais enfin, on peut malheureusement le comprendre. Et finalement, tout cela...
Ça a été possible. Voilà.
Ça a été possible.
Que c'était possible.
Ça a été possible. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup insisté, moi, à la fin de mon mandat, au mois de juillet, sur le fait que si les autorités publiques, les décideurs politiques, le président de la République, le garde des Sceaux, ne profitent pas de ce moment où le nombre de détenus a incroyablement baissé pour mettre tout en œuvre pour que ça ne remonte pas, eh bien, je pense qu'ils porteront une responsabilité devant l'histoire, alors, carrément.
Mais Adeline Hazan, ça veut dire aussi, il faut expliquer à nos auditeurs, c'est un peu compliqué, parce que c'est le numerus clausus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes partisan de ce qu'il y ait un nombre limité de détenus et qu'on adapte, que tous les juges, tout l'appareil répressif s'adapte en quelque sorte à ce chiffre pour ne pas le dépasser.
Alors, moi, il faut préciser que ça n'est pas exactement le numerus clausus, que le système que moi je défends s'appelle plutôt régulation carcérale parce qu'il est moins automatique. Mais bon, le principe, en tout cas, est à peu près le même. Le principe, c'est de dire, il faut que les établissements pénitentiaires n'accueillent que à 100% de leur capacité. Mais d'ailleurs, c'est quand même incroyable qu'on se soit tellement habitué à ce que, les juges prononcent des décisions et puis la prison, l'administration pénitentiaire n'a pas son mot à dire et ne peut pas dire, mais on peut pas, on est plein, comme le disent un certain nombre d'établissements.
Mais comme un service même d'urgence,
les hôpitaux, le disent, sauf évidemment dans un service d'urgence. Et comment arriver à cela? Eh bien, en faisant en sorte d'abord de moins prononcer au début du cursus de peine, ça va de prison et plutôt des alternatives à l'incarcération comme le bracelet électronique, le chantier extérieur, le sursis mis à l'épreuve, et puis en bout de course, eh bien regardez qui, mais en examinant au cas par cas, pas en faisant ça de façon automatique, regardez qui est à un mois, deux mois, trois mois de la fin de sa peine prévue et qui peut sortir sans se mettre en danger ou mettre en danger la société. Et seulement à partir du moment où on en aura fait sortir quelques-uns, en examinant bien sûr leur dossier, eh bien en faire rentrer d'autres.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Toujours avec Adeline Hazan pour parler de l'enfermement et de son rôle de contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Christine and the Queens, Paradis perdu.
Adeline Hazan. C'est une chanteuse que j'aime énormément et j'aime d'autant plus ce morceau, Paradis perdu, qu'il évoque bien sûr un autre grand chanteur, Christophe, qui a disparu il y a quelques mois et que j'aime beaucoup également. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson dont je trouve à la fois les paroles et la musique formidable.
Et qu'incarne une sorte de douceur à l'opposé des milieux que vous fréquentez.
Tout à fait. Et c'est pourquoi on a besoin parfois de douceur pour compenser, c'est une évidence.
Tout à fait. Alors, vous avez, il y a une caractéristique des rapports, de vos rapports, c'était vrai de votre prédécesseur Jean-Marie Delarue, c'est que c'est des rapports qui comportent des images. Il y a toujours des images. Mmh. Des images qui ne sont pas très agréables à regarder d'ailleurs. Et vous avez fait le texte d'un livre magnifique qui s'appelle Les Enfermés, parce que Jean-Christophe Ancher était avec vous, était dans l'équipe et a pris des photos de ces différents lieux de privation de liberté de façon à donner un contenu sensible. La prison, c'est quelque chose de sensible. Les droits fondamentaux, ils sont nulle part ailleurs plus concrets que dans la prison, comme on a pu s'en rendre compte, Adeline Hazan.
Oui, et c'est très important pour nous, je dis encore nous parce que c'est tout à fait récent, qu'il y ait des images d'abord pour se souvenir, mais aussi pour montrer dans les rapports dont ils vont être publiés après sur le site du contrôle, pour montrer non pas seulement aux administrations et aux ministres de tutelle, mais montrer aussi au public ce que c'est par exemple qu'une cellule, ce que c'est qu'une cour d'un quartier disciplinaire, ce que c'est qu'un centre de rétention avec un enfant de 6 ans devant la télévision en train d'essayer de passer son ennui et de gérer son angoisse. Donc c'est très important et un photographe nous accompagnait. Alors comme on faisait 5 ou 6 missions par mois, il pouvait pas accompagner toutes les missions, mais à chaque fois il accompagnait une des missions, Jean-Christophe Ancher, que j'ai recruté, qui a beaucoup de talent. Et nous avons eu l'idée ensemble que le Contrôle Général, c'est un livre publié par le Contrôle Général, eh bien, à la fin de mon mandat, publie ses photos qu'il a prises lors de ses missions. Et nous l'avons bien sûr complété, et lui et moi, j'en ai fait la préface, bien sûr, par une préface
et
pour expliquer.
Et puis des textes, des lettres de détenus.
Voilà, et surtout des lettres de détenus et également des extraits de nos rapports ou de nos avis. Et ce qui est intéressant dans la démarche de ce livre, c'est que nous n'avons pas voulu faire les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention. Nous avons voulu en fait mélanger tous ces lieux pour montrer qu'il y a malheureusement, mais c'est ainsi, il y a finalement un tronc commun, un dénominateur commun de souffrance, d'atteinte aux droits fondamentaux, quels que soient les lieux d'enfermement.
Mais justement, Adeline Hazan, il y a tellement de choses à dire, mais c'est un lieu de souffrance, mais pour le milieu psychiatrique, la souffrance aussi, elle est avant. Elle est avant qu'on rentre pour la prison aussi d'ailleurs souvent, mais, mais c'est un autre problème. Mais dans le milieu psychiatrique, vous avez rendu visible des pratiques que dans le fond on ne connaît pas tellement plus que celles de la prison.
Absolument, peut-être moins encore. Oui. Et c'est vrai que moi j'ai décidé tout de suite, dès que j'ai pris mes fonctions en 2014, de faire de la psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques une priorité de mon mandat. Les prisons avaient déjà été beaucoup explorées pendant le mandat précédent et je voulais justement explorer beaucoup ces questions de psychiatrie que je connaissais d'ailleurs moins bien que je ne connaissais les questions de justice et de prison. Et j'ai découvert vraiment un univers à la fois évidemment passionnant mais de souffrance aussi terrible due à cet enfermement, puisque je précise que le Contrôle Général n'est compétent tant que dès lors qu'il s'agit d'hospitalisation sans consentement. Et non pas si quelqu'un veut aller se faire hospitaliser pendant 3 jours parce qu'il fait une dépression nerveuse librement, nous ne sommes pas compétents. Nous sommes compétents lorsqu'il y a une hospitalisation sans consentement. Et à l'intérieur de cet enfermement que représente l'hospitalisation sans consentement, il y a un autre enfermement qui est l'isolement et la contention, c'est-à-dire que jusqu'à, je vais y revenir dans quelques instants, jusqu'à 2016, on pouvait isoler et attacher, parce que la contention, on parle de contention physique, attacher des patients simplement parce que...
Oui,
d'une certaine façon, oui, parce qu'ils s'agitaient, parce qu'ils refusaient un traitement, parce qu'ils n'étaient pas bien, et aucune loi ne venait encadrer ces pratiques.
Pour limiter la durée, par exemple.
Absolument, et nous avons fait une visite en 2015, et ça a été un peu, c'est sans mauvais jeu de mots, un électrochoc pour, à la fois pour nous d'ailleurs, mais aussi pour le public et même pour le ministère de la Santé. Et nous avons découvert un hôpital où certaines personnes étaient enfermées et parfois attachées depuis un an, depuis plus d'un an. Parfois même les soignants ne savaient plus la date où la décision avait été prise.
Quelle peut être l'utilité ? Alors c'est des gens qui étaient furieux d'autrefois, qui ne peuvent pas être
Non, parce qu'en fait, nous avons saisi le ministre de la Santé, nous avons fait une recommandation en urgence qui a eu d'ailleurs énormément d'écho. Et l'établissement, je le précise, il s'agit de l'établissement du centre psychothérapeutique de l'Ain à Bourg-en-Bresse, a pris les choses en main de façon à complètement revoir ses méthodes, complètement revoir ses pratiques. Et pour lui aussi, ça a été une forme d'électrochoc.
Comme s'ils avaient besoin, et c'est très le rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté, cette sorte de retour de regard extérieur.
Finalement, je crois que tout le monde en a un peu besoin d'un regard extérieur. Mais je pense qu'en psychiatrie, ils en avaient probablement encore davantage besoin parce que la psychiatrie et le parent pauvre, on le sait malheureusement du milieu hospitalier, dont on sait déjà elle-même qu'elle ne va pas bien. Et finalement, tout le monde agit dans l'urgence, les médecins, les soignants, tout le monde agit dans l'urgence et on finit par ne plus voir comment ils travaillent. Mais en tout cas, c'était le cas dans certains établissements. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que justement dans ce milieu psychiatrique où pourtant nous n'avons pas, loin s'en faut, mâché nos critiques, eh bien nous avons été de mieux en mieux accueillis et j'ai beaucoup travaillé avec les associations de psychiatres, les syndicats, je suis intervenue dans beaucoup de colloques, nous avons publié un ouvrage thématique sur la psychiatrie sans consentement au mois de juin dernier, qui a été très bien reçu par le milieu psychiatrique et d'ailleurs nous a aidé à le faire. Nous avons auditionné beaucoup de praticiens. Donc là, on est devenu un regard extérieur qui finalement leur permettait de réinterroger leurs pratiques et avec qui ils souhaitaient travailler pour améliorer leurs propres pratiques.
Une véritable collaboration.
Absolument.
Parce que ce qui est paradoxal quand même, c'est que la moitié des lits, je l'ai lu dans votre rapport, la moitié des lits en psychiatrie ont été fermés en 30 ans.
Absolument.
En France. C'est incroyable.
C'est incroyable. Et c'est à cause de cela que la psychiatrie connaît une crise aiguë. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi pas fermer la moitié des lits en 30 ans si, ce qui était d'ailleurs l'objectif initial, on voulait à l'époque développer ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire au contraire la psychiatrie de secteur qui voulait être développée. C'était justement les suites de 68, 70, les interactions, l'antipsychiatrie, etc. Absolument, la clinique de la Borde, etc. Donc, on a fermé à peu près la moitié des lits sur 30 ans, mais on n'a pas mis l'équivalent ou une partie de cet équivalent, en tout cas de cette suppression, sur l'ambulatoire, c'est-à-dire sur les hôpitaux de jour, les CMP, les structures qui permettent de soigner quelqu'un tout en le laissant chez lui. Comment ça se passe, il faut le savoir actuellement, quelqu'un qui commence à avoir des troubles psychiatriques et qui souhaite se faire soigner. La démarche générale, s'il ne peut pas aller chez un psychiatre privé, c'est d'aller dans un centre médico-psychologique. Eh bien, actuellement, il faut à peu près 6 mois pour avoir un rendez-vous.
Donc, ce qui est un non-sens quand une personne absolument. En période aiguë. Quoi,
absolument. En phase aiguë. Ce qui fait que eh bien, les personnes, finalement, les symptômes s'aggravent et finalement, la personne finit par avoir besoin d'être hospitalisée, voire d'être hospitalisée sans consentement.
Malheureusement, Adeline Hazan, c'est un peu ce qui se passe pour la justice des mineurs, hein, parce que vous connaissez bien également. Bien, c'est-à-dire qu'il y a un délai très très long de prise en charge des mesures du juge des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attend qu'il y ait un délit commis pour qu'il y ait un traitement pénal. Absolument. Et donc de la pire des manières, des problèmes familiaux. Et d'ailleurs, vous avez signé une tribune, c'est curieux de la part d'une contrôleur général des lieux de privation de liberté, parce que vous avez plaidé au fond en disant mais il est possible de soigner mieux en enfermant moins. C'est ça
Oui, absolument. J'en suis convaincue justement que si les pouvoirs publics se donnaient les moyens et donnaient une priorité aux soins, mais à l'extérieur, aux soins ambulatoires, aux hôpitaux de jour, à toutes les instances qui permettent de faire un travail thérapeutique, des ateliers thérapeutiques. Enfin, il y a mille choses qui peuvent exister en laissant la personne dans son milieu. Eh bien, je pense que on aurait moins besoin d'hospitaliser, les choses se feraient moins dans l'urgence, et c'est cela que j'appelle soigner mieux, oui. Même si évidemment je n'ai bien pas compétence pour dire si on soigne bien ou pas bien. Alors, mais en tout cas, soigner différemment. Et soigner sans cet enfermement qui est...
Est-ce que, dans votre livre, ça aussi, il y a que les images qui peuvent le dire, vous montrez un hôpital psychiatrique qui est en fait une camisole de force qu'on appelle appelons ça ainsi, et ça s'appelle chambre d'apaisement. Mais
absolument.
On a l'impression que ça pèse pas grand-chose. Mais alors, précisément, est-ce qu'on n'est pas, et vous êtes bien placé pour le percevoir, Adeline Hazan, des fonctions que vous occupiez, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de basculement aujourd'hui, d'un point de vue général, qu'annonçait déjà le débat entre Deleuze et Foucault, en disant on est dans une société de contrôle, on n'est plus dans une société qui regroupe dans un même lieu et qui enferme avec toutes les travers, les tares que comporte en soi l'enfermement, mais est-ce que on devrait pas mettre accélérer cet effet de bascule vers un traitement, et c'est la même chose pour la peine, des chantiers publics, des travaux d'intérêt général, des systèmes électroniques pour faire basculer, pour vider les prisons et les hôpitaux psychiatriques.
D'ailleurs, il s'est passé pendant la crise sanitaire, il s'est passé, alors de moindre ampleur évidemment, mais il s'est passé à peu près le même mouvement que ce qui s'est passé dans les prisons, c'est-à-dire que les médecins en milieu hospitalier ont tous été obligés dans leur hôpital psychiatrique de créer une unité Covid. Bon, très bien, sauf que pour créer une unité Covid, il fallait trouver de la place et il fallait trouver des lits, surtout puisque ce sont des unités qui regroupaient à peu près une vingtaine de patients. En tout cas, ils étaient obligés de libérer ces lits. Eh bien, ils ont laissé sortir des malades qu'ils n'auraient pas laissé sortir auparavant. Et en insistant sur une prise en charge par téléphone, comme on était en plein confinement, c'était difficile d'aller évidemment chez les personnes, mais par visioconsultation, par téléphone. Et donc là aussi, ils ont finalement expérimenté une autre forme de médecine. Et moi, je me souviens avoir discuté avec des psychiatres à la fin du confinement qui me disaient... Finalement, on est en train de faire un peu la médecine qu'il faudrait maintenir, c'est-à-dire avec bien sûr d'autres moyens, mais en enfermant moins. Et c'était finalement un petit peu le pendant de ce qui se passait.
Ça,
on vidait les prisons et puis on essayait d'hospitaliser moins parce que de toute façon on était obligé, il fallait de la place pour ceux qui avaient le Covid.
Alors il y a un autre effet du confinement auquel j'avais pas pensé d'ailleurs, mais pour les centres de rétention. Et donc les centres de rétention, je rappelle pour les auditeurs, c'est les centres dans lesquels on, administrativement, donc des gens à qui on ne reproche rien, mais pour le temps de les renvoyer chez eux éventuellement, ils sont retenus dans des centres de rétention administrative qui sont aussi sous votre juridiction.
Absolument.
Et qui posent aussi des problèmes de d'oisiveté, des problèmes familiaux, quoi, de toute nature. Et là, pendant le confinement, il n'y avait plus d'avion. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux.
Il n'y avait plus d'avion quand même, les autorités n'ont pas agi suffisamment vite et pas assez en quantité, mais ont quand même fermé un certain nombre de centres de rétention. Et moi, je demandais que l'ensemble des centres de rétention soient fermés, puisque précisément, de toute façon, on a n'allait pas expulser les gens puisqu'il n'y avait plus d'avions. Malheureusement, il en est resté quand même un certain nombre, notamment dans le centre de rétention de Vincennes et du Ménil-Amelot, au point que nous avons été obligés, quelques contrôleurs et moi-même, au plus fort de la crise sanitaire, parce que nous avions été alertés, nous avons été obligés d'y aller pour constater les conditions dans lesquelles les personnes se trouvaient, qui n'étaient absolument pas satisfaisantes, c'est-à-dire qu'elles étaient, on avait vidé certaines ailes, mais elles se retrouvaient quand même avec, elles étaient à plusieurs, avec des robinets absolument dans un état de saleté épouvantable, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de gants, enfin c'était quelque chose d'assez effrayant, et au retour de centre de rétention, j'ai saisi immédiatement le ministre de l'Intérieur pour lui demander la fermeture.
Et vous pouvez faire des recommandations d'urgence.
D'urgence, voilà. C'est ça. On l'a fait plusieurs fois. On l'a fait une fois ou deux par an. Et à chaque fois, je dois dire qu'on a été, alors pas forcément entendu à 100%. Là, le ministre de l'Intérieur ne voulait pas fermer le centre de rétention. Mais en tout cas, ça a créé un débat. Et on a, sur la psychiatrie, on a vraiment été entendu puisque je vous disais tout à l'heure que aucune loi n'était venue encadrer ces pratiques d'isolement et de contention. Eh bien, notamment grâce à nos rapports, et il y a eu des travaux parlementaires, bien sûr, qui ont abouti à une loi du 26 janvier 2016 qui a encadré les conditions de placement sans consentement.
Pourtant, il y avait
et
déjà...
récemment...
Oui, il y avait déjà un juge qui intervenait. Une des grandes avancées de ces dernières années, c'est que les juges sont entrés dans les hôpitaux psychiatriques pour
absolument.
Contrôler...
Absolument, mais alors le juge, justement, le juge de la liberté et de la détention, ne contrôlait que le principe, la régularité de l'hospitalisation sans consentement.
Mais pas le contenu.
Mais
il, de
pas
la...
le contenu, et surtout pas, il n'intervenait pas dans le cadre des placements à l'isolement et en contention. Et justement, j'ai été vraiment très très heureuse, tout à fait à la fin de mon mandat, c'était en juillet dernier, de constater que le Conseil constitutionnel avait juste précisément déclaré cette loi inconstitutionnelle parce qu'elle ne faisait pas intervenir le juge, donc, et a donné au gouvernement 6 mois, c'est-à-dire jusqu'en décembre, pour se mettre d'équerre et faire en sorte que maintenant il y ait un juge qui intervienne sur les mesures d'isolement et de contention.
France Culture,
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Esprit de Justice, toujours ce soir en compagnie d'Adeline Hazan pour parler des lieux d'enfermement, et pour ce deuxième choix musical, Adeline Hazan, vous avez choisi le prélude numéro 4 de Chopin, interprété par Maurizio Pollini.
Chopin est un de mes compositeurs préférés et je dois dire que ce morceau, je l'écoute très très souvent parce que cette interprétation évidemment par Maurizio Pollini est remarquable. On sent d'ailleurs la présence de l'interprète sur le piano, j'ai envie de dire carrément, et je trouve ça absolument magnifique.
Et vous avez besoin d'écouter de la musique quand vous avez passé toute la journée en détention?
J'aime bien, oui. Parfois, je ne souhaite pas écouter de la musique, mais je trouve que c'est agréable de pouvoir accéder à un certain nombre de plaisirs comme
alors,
cela.
Vous avez exercé des fonctions que je continue de trouver assez singulières dans la forme républicaine qui est la nôtre, mm-hmm. où en général on croit plus. Bon, il y a aussi des services d'inspection internes au ministère de la Justice, d'ailleurs maintenant qui sont réunis auprès de l'inspection générale de la Justice. On contrôle les prisons. Bon, il y a la voie hiérarchique, il y a pas mal de contrôles. Et là, cette idée d'un contrôleur ou d'une contrôleur, comme le défenseur des droits, d'ailleurs qui est institution qui a beaucoup pris, hein, je constate, mm-hmm. qui a beaucoup pris, alors que c'était pas gagné, il partait pas gagnant au départ. Hein. Bon, eh bien, ça représente, Adeline Hazan, une véritable nouveauté. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme de démocratie?
Moi, je considère que l'existence d'une telle institution honore notre démocratie, et elle l'honore d'autant plus que nous sommes vraiment, ça n'est pas que sur le papier que l'indépendance est proclamé, nous sommes vraiment totalement indépendants. Je n'ai jamais eu à subir la moindre pression d'aucune sorte que ce soit. Il faut dire que là aussi, ça remonte à loin, parce que ça fait à peu près, ça faisait au moins 10 ou 15 ans qu'en France, des grandes voix demandaient qu'il y ait un regard extérieur, oui, une instance extérieure sur les prisons.
On pense au rapport de 2000.
Voilà, de Canivet, du rapport Yest, ensuite le sénateur. Donc ça faisait quand même longtemps que c'était demandé. Là, à ce moment-là, d'ailleurs, on ne parlait pas de la psychiatrie. Mais il y avait aussi la pression internationale, car au fond, en 2002, ça se sait moins, mais en 2002 a été rédigé un protocole facultatif additionnel à la Convention contre la torture, qui est qui dépend de l'ONU, et ce protocole additionnel demande à tous les pays dépendants de l'ONU d'avoir ce mécanisme de prévention.
Donc c'est sous inspiration internationale.
Nous, finalement, en France, c'est intéressant parce que ça s'est complètement croisé, c'est-à-dire qu'il y avait cette demande internationale depuis longtemps et cette demande française. Et moi, je pense que vraiment, c'est très important, parce qu'on parlait tout à l'heure des photos et de ce que ça permet à voir. Et je pense que, justement, le contrôle général, ça permet de rompre le secret qui entoure ces lieux, ce fameux secret dont Michel Foucault, justement, a voulu lui aussi en 71 avec d'autres, a voulu rompre avec le GIP.
Avec Claude Mauriac et Jean-Marie Domenac.
Voilà, absolument, absolument,
de
questionnaires des détenus pour les publier ensuite. On est un petit peu, quelque part, hein, les ancêtres de tout cela. Et nous, on donne à voir, je le dis souvent, on donne à voir l'invisible.
Mais
et ça, c'est extrêmement important.
Mais oui, mais il y a de transparence qu'à la condition qu'il y ait quelque chose à voir. La transparence, c'est pas uniquement de regarder les gens délibérer, ce qui est très bien. Hein, du conseil municipal, vous avez été maire d'une grande ville de France. Mais bien sûr, c'est très important. Mais là, ce qu'on donne à voir, ce que vous donnez à voir, c'est précisément, c'est l'invisible, et c'est des choses qu'on n'a pas envie de regarder, peut-être
absolument.
Aussi.
Oui, absolument. Et c'est ça que je trouve, moi, de plus en plus inquiétant, c'est que je l'ai vu presque, je dirais, sur la durée de mon mandat, en 6 ans, j'ai vu, c'est pourtant à la fois court et long, mais c'est court par rapport à l'histoire, j'ai vu à quel point ce réflexe d'enfermement était de plus en plus prégnant. Je trouve que vraiment ces dernières décennies là-dessus sont extrêmement inquiétantes, à la fois le réflexe de l'enfermement et également le respect des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'à la fois, on enferme de plus en plus, en prison, en centre de rétention, en hôpital psychiatrique, et en même temps, là où il y a à peu près 10 ans, je dirais, tout le monde se mettait d'accord sur le fait qu'il y a quand même un socle de droits fondamentaux, même dans l'enfermement.
Il y avait un consensus humaniste,
absolument.
Qui a perduré très longtemps.
Depuis la guerre, avec des hauts et des bas, mais notamment du fait que finalement les auteurs d'un certain nombre de politiques, d'un certain nombre de lois, c'était souvent des personnes qui avaient vécu l'enfermement,
bien
justement,
sûr,
la déportation, sûr, les camps, les prisons.
Ah bah, le souvenir des camps et l'enfermement des résistants était déterminant.
Déterminant dans, justement, à la fois la prison, la psychiatrie. Et là, je trouve qu'on est complètement dans quelque chose de différent depuis 10 ou 12 ans, c'est-à-dire que ce réflexe de l'enfermement est de plus en plus prégnant, et surtout, dans l'enfermement, Et dans la société en général, je crois même qu'on peut dire dans la société en général, le respect de droits fondamentaux, cet équilibre qui est le sens que ce que d'ailleurs doit regarder le contrôle général en permanence, l'équilibre entre des mesures de sécurité qui sont nécessaires, bien sûr. Personne ne dit qu'elles ne le sont pas, et quand même une proportionnalité et un respect des droits fondamentaux, eh bien ça on a l'impression que c'est pour toute une catégorie de la population, pour les décideurs politiques, c'est un petit, ça n'est plus le problème, ça n'est plus quelque chose qu'on veut atteindre.
Mais oui, mais par exemple, si on voit vous en parlez, hein, je dis ça parce que vous avez fait même une conférence là-dessus sur Foucault, en montrant à quel point la notion de dangerosité, qui est commune d'ailleurs à la psychiatrie et à la prison, on en parle autant pour l'affaire de Pau, etc., que c'est le risque et n'est plus supporté, et donc on demande une incarcération préventive, et là on marche un peu sur la tête, du moins pour la prison, parce que on peut pas condamner les gens avant qu'ils aient fait commis une infraction.
Et un des grands basculements d'ailleurs a été justement la loi sur la rétention de sûreté en 2008, où pour la première fois il était décidé comme qu'il était possible à la fin de la condamnation de quelqu'un, à la fin de la peine de prison de quelqu'un, de le maintenir dans un lieu de rétention de sûreté, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il pourrait être amené à faire. Ce que Badinter, d'ailleurs, avait appelé le
délinquant virtuel.
Le délinquant virtuel. Et malheureusement, il y a eu à nouveau une tentative, heureusement que le Conseil constitutionnel l'a déclaré inconstitutionnel en juillet, c'est-à-dire que les parlementaires ont voté à nouveau pour les délinquants condamnés au terrorisme, ont voté une loi qui permettait, une fois ces personnes sorties de prison, d'être condamnées à un bracelet électronique, à un suivi socio-judiciaire. Et heureusement, le Conseil constitutionnel a indiqué que ça n'était pas possible.
Mais Aliazan, ce qui est intéressant dans votre expérience de ces 6 dernières années, peut-être plus d'ailleurs que pendant le précédent mandat de Jean-Marie Delarue, c'est que vous faites des recommandations au gouvernement, c'est votre rôle, produisez des rapports publics qui sont accessibles sur le site et donc sur lesquels tous les citoyens peuvent se reporter. Mais vous êtes particulièrement entendu par les juridictions.
Oui, absolument.
C'est-à-dire que on a insisté avec la décision du 30 janvier 2020 qui a été extrêmement
importante. Qui cite beaucoup le contrôle,
d'ailleurs. Qui cite beaucoup le contrôle.
Oui, qui alors cite les rapports du contrôle. Parce qu'en fait, cette décision du 30 janvier 2020, en fait, nous avons été, avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme française, nous avons été tierce intervenant, c'est-à-dire que ce qui est possible, c'est-à-dire que nous avons en fait produit un certain nombre de rapports à l'appui justement de cette décision. Et la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, dans ses attendus, cite beaucoup les rapports du contrôle général des lieux de privation de liberté. Et d'autres juridictions également les citent.
Mais c'est intéressant parce que ça veut dire, c'est très intéressant au terme de fonctionnement démocratique, ça veut dire que finalement vous déposez dans l'espace public des informations, des analyses, des constats. Et après, aux gens de s'en emparer. Absolument. Et ces gens, ça peut être d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je crois savoir que le contrôleur général des lieux de privation de la liberté, et alors que la France était un peu à la traîne, est devenu un peu quelque chose qui est montré en exemple
à
l'étranger.
Tout à fait, car comme je vous le disais tout à l'heure, normalement tous les pays rattachés à l'ONU doivent avoir un mécanisme tel que le nôtre. En fait, il y en a à peu près 60 ou 70 quand même dans le monde qui existent, mais le mécanisme français est vraiment d'ailleurs souvent visité, et on explique, ou bien fait des formations à l'étranger, parce qu'il est considéré d'abord comme le plus indépendant de tous. Parfois, dans certains pays, c'est autre chose. Voilà. Et par ailleurs, celui qui a un champ de compétences le plus large, c'est-à-dire les centres de rétention, les centres éducatifs fermés, les hôpitaux psychiatriques, alors que dans certains pays, il n'y a pas tous les lieux.
Ce que je trouve très intéressant aussi dans ces rapports, c'est le côté analytique. c'est-à-dire analytique et puis suivi. Je pense au travail qu'a fait votre prédécesseur sur les registres de garde à vue. C'est un truc idiot, mais en fait extrêmement important. Pour pouvoir contrôler les gardes à vue, il faut qu'il y ait un registre. Et alors, il y a eu aussi une décision de la Cour de cassation. Alors là, une nouvelle juridiction entre en scène qui a été très importante et qui on attend de voir ce que ça va donner dans la pratique. Adeline
Absolument. Adam. Pour la première fois, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour la première fois, il a été dit, c'était le 8 juillet dernier, que les conditions de détention pouvaient devenir, pour le moment c'est en détention, dans le cadre d'une détention provisoire, un motif de demande de mise en liberté. C'est-à-dire qu'en fait, un détenu, par exemple, concrètement, qui vit dans une cellule de 9 mètres carrés avec des rats qui grouillent, comme on l'a vu à Fresnes, ou avec... Eh bien, il pourra... Au nom de ces droits fondamentaux qui sont totalement atteints, au nom de ces conditions d'incarcération, il pourra demander au juge de la liberté de la détention sa libération. Ça ne veut pas dire qu'il l'obtiendra, évidemment. Mais en tout cas, ça devra être considéré comme un motif valable de demande de mise en liberté, ce qui a toujours été, ce qui n'a jamais été le cas. Et c'est la première. Au contraire, la Cour de cassation indiquait que ça ne pouvait en aucun cas être un motif de libération, mais seulement éventuellement un motif d'indemnisation après, mais en tout cas jamais un motif de libération. Et cette fois-ci, ça l'a été. Nous, on s'est sentis vraiment très confortés dans notre travail, bien sûr, de dénonciation de ces conditions d'incarcération. Et je crois que justement, c'est tout ce que nous faisons, et c'est pour répondre un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous faisons, les recommandations que nous produisons, eh bien, ça constitue finalement un socle de droit souple. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons voulu faire quelques semaines avant la fin de mon mandat. Nous avons publié, et c'est un travail bien sûr qui a demandé au moins deux années entières, nous avons publié ce qu'on appelle des recommandations minimales.
Alors, ce que je trouve aussi intéressant, on terminera là-dessus, parce que je trouve que c'est une consécration de votre travail, du travail des contrôleurs généraux. C'est-à-dire que, finalement, ce que vous renvoyez à la société, c'est quelque chose de sensible. C'est ce que les sociologues appellent le savoir expérientiel de ces gens-là. Et à travers cette décision du 8 juillet dernier, fortement inspirée par votre travail, c'est précisément une prise en compte de la peine vécue. C'est-à-dire de la peine dans la peine, on pourrait dire. C'est plus quelque chose d'abstrait. Et là, c'est véritablement l'esprit dans lequel le contrôle a travaillé.
Complètement. Complètement, parce que nous travaillons sur la façon dont est vécu l'enfermement par la personne, dont c'est vécu dans sa chair, dans sa tête. Et notre mission, c'est justement de le dire, de le raconter, de le montrer, de le faire voir. Et évidemment, ça n'a de sens que si c'est utilisé dans le cadre de décisions de justice, dans le cadre de modifications de loi, de propositions de loi. Évidemment, c'est dans cela que ça a un sens.
Et ben voilà, vous avez parfaitement résumé votre fonction. Merci beaucoup, Adeline Lazan.
Merci, Antoine Grappin.
Esprit de justice, ce soir avec Adeline Lazan, Marie Le Peintre, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Grappin. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h.